BW. Droits et libertés.
Second volet cette semaine de notre questionnement sur les raisons du succès des mouvements terroristes islamistes en Afrique de l'Ouest. Après un bref historique, nous avons commencé à parler la semaine dernière de la démission des États qui favorisent l'émergence de ces mouvements armés, qui prennent souvent la religion comme prétexte pour profiter de la situation et semer la désolation. Et puis en seconde partie de ce magazine, nous irons constater les conditions de vie déplorables de migrants africains au Yémen. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous.
Maintenant, ces groupes se contentent d'attendre tranquillement qu'il y ait des zones d'instabilité et ils les exploitent. Chaque fois qu'il y a un conflit local, tribal, culturel, on y met l'habit religieux. En faisant de sorte, on va présenter ces conflits comme étant des conflits terroristes, etc. Et en le faisant, ils savent ce qu'ils font, ces groupes. Ils attirent l'Occident dans le but de l'intervention ou de l'interventionnisme. L'intervention et l'interventionnisme avec les bavures militaires, les bavures sur le plan de la sécurité, causent d'autant plus de frustration au niveau de la population, ce qui assure aux mouvements terroristes une bonne base de recrutement de frustrés qu'on va engager avec la cause du djihadisme pour, encore une fois, déstabiliser cette région qui a déjà énormément de problèmes.
C'est par ces mots du chercheur Bakar Issamb que nous nous étions quittés la semaine dernière. Bakar Issamb qui déplore que les États comme le Mali ne ripostent pas au terrorisme en investissant massivement dans les infrastructures des régions les plus enclavées, comme le Nord. Alors que ce délaissement de la population a mené justement à un appauvrissement progressif et a permis à la corruption et aux réseaux criminels de s'implanter. La religion, le djihadisme, l'extrémisme ne sont qu'un moyen utilisé par les groupes armés pour faire du profit, selon Bakar Issamb. Alors même qu'ils fustigent dans leur discours la corruption des autorités publiques pour attirer dans leur rang les jeunes désillusionnés. À Dakar, Lauriane Terrou-Benoni étudie l'extrémisme au sein de l'ISS, l'Institut de recherche sur la sécurité.
Notre compréhension du phénomène auquel on est confronté est limitée. Et donc les réponses qu'on développe pour y répondre sont au mieux inappropriées et dans le pire des cas contre-productives.
Lauriane Terrou-Benoni a mené des entretiens avec une soixantaine de jeunes gens du Mali qui ont combattu un temps dans les rangs d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Mourabitoun ou encore en Sardine. La chercheuse voulait comprendre pourquoi ils avaient fait ce choix.
Si on doit véritablement essayer d'identifier les facteurs principaux, on s'aperçoit que les logiques de protection de soi, de sa famille, de son activité génératrice de revenus arrivent bien avant les raisons souvent mises de l'avant.
Le chômage est un facteur parmi une catégorie de facteurs économiques.
Un facteur. Elle cite l'exemple d'une famille d'éleveurs dans le centre du Mali, dans une zone contrôlée par un groupe armé. Les combattants de cette milice se servent sans vergogne dans les troupeaux des éleveurs. Que fait alors la famille? Elle envoie un fils dans les rangs de la milice qui cesse alors de piller le bétail de sa famille parce qu'on ne vole pas les animaux des combattants du groupe. Ce n'est alors ni la religion ni le chômage qui pousse ces jeunes à rejoindre les djihadistes, mais bien la défense de leurs propres intérêts familiaux. Même constat dans le nord-est du Nigeria, d'ailleurs, une région où l'islam est également très ancré. Plusieurs études montrent que les jeunes ne s'engagent pas aux côtés de Boko Haram pour des questions de foi, la plupart du temps. Marc Pérouse de Monclos de l'IRD a étudié la question.
Alors, j'ai moi-même eu l'occasion de m'entretenir avec une soixantaine de membres présumés de Boko Haram en prison ou en liberté au Nigeria, au Niger et au Tchad. Et ce qui m'a frappé, c'est que sur cette soixantaine de personnes, il y en avait un qui effectivement disait avoir rejoint le groupe pour des raisons religieuses. Il avait été convaincu par le discours du fondateur de la secte et c'est la raison qu'il mettait en avant pour avoir rejoint le groupe. Tous les autres, c'était la répression, le sentiment de persécution, l'opportunisme économique aussi. Quand la coalition antiterroriste composée du Nigeria, du Cameroun, du Niger et du Tchad ferme les frontières, interdit la culture du poivron rouge qui fait vivre la région de Diffa, interdit la pêche sur le lac Tchad, du coup, il y a des jeunes qui, effectivement, faute de moyens pour survivre, se joignent au groupe pour participer au pillage.
Pour l'instant, aucune alliance interétatique, ni les missions de l'ONU comme la MINUSMA, ni Barkhane, ni même le G5 Sahel réuni il y a peu à Ouagadougou, n'est parvenue à trouver une réponse efficace au terrorisme de ces groupes armés. Lauriane Terroubenoni de l'ISS à Dakar.
On voit actuellement l'élaboration de grandes stratégies régionales de lutte contre l'extrémisme violent. Bon, on pense qu'il n'est pas mauvais d'essayer de coordonner au niveau régional, mais on pense que les réponses, elles doivent être avant tout locales. Cette nécessité de comprendre le même problème de façon différenciée commence petit à petit à prendre racine, mais je crois qu'il y a encore un travail important à faire d'analyse du problème et d'élaboration de solutions qui soient adaptées et qui soient surtout en constante évolution de la même façon que la situation sur le terrain évolue.
Au Mali, il faudra par exemple que le gouvernement réponde au déséquilibre entre les intérêts des éleveurs et des cultivateurs. Il faudra répondre aux besoins en eau potable pour les gens et pour les bêtes. Dans le nord-est du Nigeria, les ripostes à Boko Haram seront complexes aussi. Peut-être que commencer à respecter les droits des civils et aussi des militants de la secte serait un début. Par exemple, en identifiant celui qui a tiré sur le leader de Boko Haram et en lui demandant de rendre des comptes devant la justice. Il faut aussi impliquer bien sûr les leaders politiques et religieux locaux pour déconstruire les discours brandis par les groupes djihadistes et puis proposer une véritable alternative, d'autres idéaux à la population. Évidemment, développer l'économie, élever le niveau de vie des gens pour qu'ils n'aient plus intérêt à succomber aux sirènes de l'islam radical. Mais pour réussir, cette recherche de réponse devra aussi être soutenue par les grandes puissances occidentales qui, elles aussi, instrumentalisent volontiers l'image de l'ennemi djihadiste à des fins politiques. Le scénario est hélas classique, ils rêvaient d'une vie meilleure, ont épargné de l'argent pendant des années parfois, pris leur courage à deux mains et finalement quitté les leurs. Mais ils ne sont arrivés qu'à Aden, une ville portuaire du sud du Yémen, un pays en guerre depuis mars 2015. Là, des milliers de gens, des migrants venus d'Afrique de l'Est, trouvent refuge dans un stade de foot. Pour certains, c'est même là qu'ils finissent leur jour. Il y a quelques semaines, les forces de sécurité yéménites ont opéré une descente et procédé à des arrestations en masse. Dans ce stade et dans deux autres camps du sud du pays, les Nations Unies ont décompté au moins 8 morts en moins d'un mois. Mort de diarrhée, un mal que l'on peut aisément soigner dans des conditions de vie normales. Olivia Hayden travaille pour l'Organisation internationale pour la migration. Elle s'inquiète des conditions dans lesquelles vivent ces migrants.
La situation humanitaire est catastrophique ici dans le stade. C'est pourquoi nous avons travaillé avec des partenaires onusiens et des ONG pour qu'au moins ces personnes reçoivent le minimum pour survivre. Mais ce n'est pas une solution de long terme. Peu importe ce qui va se passer et où on va amener ces migrants, il faut que ce soit fait dans le respect de leur dignité.
L'ONU a mis sur pied des centres de traitement provisoires. Il y aurait jusqu'à 200 blessés graves dans ces camps du sud du Yémen. Deux d'entre eux ont reçu des balles tirées par les forces yéménites. Le gouvernement, lui, a l'intention d'expulser ces migrants. Retour à la case départ pour eux. Or, si ces personnes ont choisi le Yémen comme lieu pour émigrer, c'est souvent par manque d'informations avant de partir.
On est arrivé d'Éthiopie il y a une semaine. On était 5000 et on ne savait pas qu'il y avait la guerre ici. Mais en fait, si, et il y a plein de problèmes.
La guerre, elle, dure depuis 4 ans maintenant. L'intervention de la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite pour réprimer la rébellion Houthi, une minorité chiite du nord du pays, a fait sombrer le Yémen dans le chaos. Le gouvernement que Riyad voulait soutenir à l'époque est encore là, certes, mais il a perdu le contrôle de presque tout le territoire. Le sud du Yémen est maintenant aux mains de milices armées. Or, c'est là qu'arrivent les bateaux chargés de migrants en provenance de la Corne de l'Afrique.
Nous ne voulons pas rester au Yémen, c'est juste sur notre route. On a commencé notre voyage avant la guerre et maintenant il y a des morts partout, des balles sifflent de toutes parts.
Le problème, c'est que ces milices sont soutenues pour la plupart par les Émirats Arabes Unis qui, eux, n'ont aucune envie de voir les migrants continuer leur route vers les riches États du Golfe. C'est la fin de ce magazine. Merci à Jens Borchers et Michael Lose pour les sons. Rendez-vous la semaine prochaine pour Droits et Libertés, le mardi et le jeudi à 17h30, temps universel. Like everybody else, a secret place in a lover's arm. I know a place not far from here, had a secret place in each other's arm. In our furthest corners we were lighting a fire. And this growing pain, we push it down with one hand, the other fanning flame into a rage of love and hate, and I've betrayal and the life of a man who's blown his last chance. Some secrets are too great to keep to yourself. Inside my skin, I'm scratching like a dog in this secret place. I walked into the street to see myself looking back at me. In so many eyes, it's in the way we walk. Just wanna be touched in the right way, like everybody else.